Nous ouvrirons la parole de Dieu dans le chapitre des Actes, au chapitre 4, et nous lirons les versets 32 à 35. Chapitre 4 des Actes, versets 32 à 35. La foule de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Personne ne disait que ses biens lui appartenaient en propre. Mais ils mettaient tout en commun. Avec beaucoup de puissance, les apôtres rendaient témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus. Et une grande grâce reposait sur eux tous. Il n'y avait aucun nécessiteux parmi eux. Tous ceux qui possédaient des champs ou des maisons les vendaient, apportaient le prix de ce qu'ils avaient vendu et le déposaient aux pieds des apôtres. Et l'on faisait des distributions à chacun en fonction de ses besoins. Amen.
La foule, la multitude de ceux qui avaient cru était un seul cœur et une même âme. Et dans cette foule, il y avait aussi des jeunes. Le texte ne le dit pas, mais nous savons qu'il y avait de nombreux jeunes. Ce matin, je vois aussi des jeunes qui composent cette foule, cette église. Et tous ces jeunes sont l'avenir de l'église dans toutes ses dimensions. Et justement, il y a un texte qui parle justement de ces jeunes constituant l'avenir de l'Église, constituant aussi le présent de l'Église, le présent dont nous avons besoin aujourd'hui. Alors je vais leur demander de se lever pour que vous puissiez les voir. Tous nos jeunes qui ont entre 12 et 35 ans, je vais vous demander de vous lever, s'il vous plaît. Il y en a encore qui restent assis. Il faut que nous puissions les voir. Alors, certaines personnes se posent la question des âges. Alors, restez debout et vous comprendrez pourquoi. Parce que cette prophétie dont je parle est à la fois pour nos jeunes et pour ceux qui sont plus âgés, plus avancés en âge, qui ont plus d'expérience. Je vais parler de la prophétie de Joël 2, 28 ou encore de Joël 3, chapitre 1er. Rappelons-nous que Dieu a donné des songes, des visions. Alors, ce serait toute l'Église qui devrait se lever comme un seul homme. Alors, j'invite l'Église à se lever alors. Amen. Et écoutons donc attentivement cette prophétie. Après cela, je répandrai mon souffle sur tous. Vos fils, vos filles deviendront prophètes. Vos anciens auront des vieillards et vos jeunes gens des visions. Même sur les esclaves et sur les servantes, en ces jours-là, je répandrai mon souffle, mon esprit. Je ferai paraître des prodiges dans le ciel et sur la terre. Amen. Voilà les miracles préparés pour toute l'Église. Nous pouvons nous asseoir maintenant. Mais j'espère que nous n'allons pas rester trop longtemps assis. Parce qu'une Église doit être en marche et doit être debout comme une armée. Alors certaines personnes diraient, c'est une Église trop belle pour être vraie. Que c'est une église cristallisée dans l'histoire des premiers croyants, touchée par le Saint-Esprit, constituant un groupe différent de ceux qui partagent leurs biens mais pas seulement, qui partagent cette annonce de l'Évangile, qui rendent un témoignage extraordinaire, si bien qu'il n'y avait parmi eux aucun indigent. Trop belle pour être vraie. Dans ce texte qui nous unit ce matin dans les Actes des Apôtres, que dis-je, les Actes du Saint-Esprit, chapitre 4e, il est parlé d'une multitude, la multitude, la foule, composée de jeunes, de moins jeunes, de toutes les tranches d'âge. Et parfois, cette multitude nous pose problème, parce que nous pensons, nous croyons que l'unité vient avec le petit nombre. Si c'était vrai, et nous connaissons nos différences, et nous savons très bien qu'on peut être deux et être teinté de différences. Mais ce texte nous interpelle, une multitude, une foule unie, un seul cœur, une seule âme. Par le miracle du Saint-Esprit. Et les versets qui précèdent constituent en quelque sorte le renouvellement d'une Pentecôte. Il y a plusieurs Pentecôtes dans le livre des Actes. Les versets 31 font état d'une autre Pentecôte. Lisez avec moi, donc Actes chapitre 4e, verset 31. « Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient rassemblés trembla, et ils furent tous remplis de l'Esprit-Saint. Ils disaient la parole de Dieu avec assurance. » Et nous comprenons que fort de cette nouvelle Pentecôte, de cette nouvelle manifestation de l'Esprit, que la multitude constitue un seul cœur et une même âme. Une église trop belle pour être vraie. Un vrai défi, un vrai challenge pour nous. Cette église n'est pas unie simplement grâce à ses forces vives, pas simplement grâce aux biens matériels, pas simplement grâce à ses idées, ses méthodes, mais une église unie autour de l'Esprit, avec l'Esprit, sous la direction de l'Esprit. Et nous voyons que même l'Ancien Testament nous rappelle que la puissance de l'Esprit-Saint se manifeste parmi la jeunesse pour réveiller toute l'Église. Et je fais aussi référence à notre histoire. Nos pionniers étaient des jeunes et ils ont bouleversé leur époque. Tu confirmes, Pascal ? Il confirme. Des jeunes qui ont bouleversé leur époque. Si bien que le message est arrivé jusqu'à nous. Alors, cher jeune, tu es chez toi ici. Tu n'es pas en dehors de l'Église, mais tu es l'Église. Que penser aussi de tous ces relais? Le prophète Joël parle de nos anciens, ceux qui ont de l'expérience. Ils ont des rêves. En général, c'est plutôt au début de sa vie que l'on a des rêves. Mais ici, le Saint-Esprit nous prend à contre-pied. Les jeunes ont des visions, ce qui est normalement censé venir avec l'âge. Et ceux qui sont plus avancés ont des rêves. C'est-à-dire que même avancés en âge, ils n'ont pas fini de rêver. Et j'espère que vous rêvez, que vous y croyez à cette église triomphante qui pourrait être pour certains trop belle pour être vraie. Une multitude sous la direction du Saint-Esprit. C'est incroyable. J'ai presque envie de dire que ça relève d'un conte. Mais puisque c'est la parole de Dieu, je ne peux pas vous dire autre chose. C'est la vérité. Si nous nous arrêtons un instant, comme une vision, comme si nous étions spectateurs de ces premiers croyants. Je suis persuadé que cet amour, cette unité nous frapperait. Des hommes, des femmes, des jeunes, des moins jeunes, de toutes les tranches d'âge, de toutes les catégories sociales, qui n'ont qu'un seul objectif, qu'une seule raison d'être, partager un fait extraordinaire, la résurrection du Christ. Amen. Dire que le Christ est vivant, bien plus le vivre. Nous sommes convaincus, ce sont les premiers croyants. Nous aussi, nous pouvons faire la différence. Puisque lorsque je nous regarde, nous sommes différents par nos origines, nos cultures, nos idées. Nous ressemblons aussi à cette église primitive. Qu'est-ce qu'il nous manque pour faire la différence? Il semble que le texte de ce matin nous donne quelques éléments de réponse. Pour être unis à ce point, pour avoir comme seul objectif l'annonce de la parole, vivre simplement cette parole, cela nécessite la présence du Saint-Esprit. En effet, le lieu où se trouve ce lieu de prière tremble. Et ils sont remplis du Saint-Esprit. Nous comprenons alors que le Saint-Esprit a fait taire les divergences, que le Saint-Esprit a fait taire toutes les ambitions, que le Saint-Esprit a fait taire tous les partis pris. Bien plus que le Saint-Esprit a fait taire toutes les bonnes ou les mauvaises méthodes. Parce qu'en réalité, ils ne font que vivre en toute simplicité ce que nous sommes appelés à vivre. Être à l'image de Jésus, une déclaration que nous connaissons, pour la plupart en tout cas, que Jésus se mêlait aux hommes, il s'intéressait à eux, et qu'il répondait à leurs besoins, et après quoi il leur disait « Suis-moi ». C'est exactement ce que nous lisons ici. Personne dans cette église ne s'approprie ses biens propres. Cela se comprend. Un seul cœur, une même âme, le désir de partager, de faire du bien. Je crois bien que nous avons déjà lu cette partie du texte dès le chapitre 2, où il est question de l'assiduité dans l'enseignement des apôtres, de la communion fraternelle, dans le partage du pain, dans les prières. Nous parlons des quatre piliers de l'Église primitive. Mais c'est surtout quatre piliers pour nous aujourd'hui. Et puisqu'ils sont unis dans cet enseignement, dans les prières, dans la communion, dans le partage du pain, alors, de nombreux miracles commencent à se produire. Ils sont unis, et au verset 47 du chapitre 2, juste une phrase, « Et le Seigneur ajoutait à l'Église ceux qui sont sauvés. » Simplicité mathématique ô combien redoutable. Nous n'avons pas cherché bien loin les méthodes, ni même les idées. La Bible contient tout, et en particulier le livre des Actes. Une église trop belle pour être vraie? Non, je ne pense pas. Simplement une église sous la direction du Saint-Esprit. C'est tellement bien mieux lorsque le Saint-Esprit conduit tout et dirige tout. Oh, combien cela nous interpelle! Parce que nous devons faire le deuil de nos idées, de nos perceptions. En tout cas, mettre au service de l'esprit idées, perceptions, actions, méthodes. Et le Seigneur se charge du reste, en ajoutant à l'Église ceux qui sont sauvés, de nombreux croyants. Je ne doute pas un seul instant que notre désir soit d'agrandir le royaume de Dieu en faisant d'autres disciples. Simplement, rien qu'à entendre nos annonces, nous voyons que nous avons le désir d'accueillir tous ceux qui nous visitent, nous avons le désir de mettre en place des projets missionnaires, disons-nous. Mais nous ne pouvons le faire sans l'appui, sans le secours et sans la prééminence du Saint-Esprit. Car c'est l'œuvre du Seigneur. Et quand bien même le Seigneur disposerait nos cœurs pour quelques missions, cela relève aussi du Saint-Esprit qui nous choisit et qui nous envoie. Une église trop belle pour être vraie? Et si nous prenions la décision de nous soumettre entièrement au Saint-Esprit pour faire taire toute dissension, toute action illustrant notre ego, voire nos méthodes. Ce serait bien trop long d'entrer, mais j'ai envie de le faire. Dieu a-t-il besoin de méthodes? Et lorsque je pose la question, je pèse mes mots. Parce que lorsque nous considérons la création, alors bien entendu, ce n'est pas un livre scientifique, oui. Mais quand même, lorsqu'il parle et cela réalise, lorsqu'il dit et cela s'exécute, personnellement je m'incline devant la puissance, la toute-puissance de Dieu. Et je m'efforce simplement de dire, Seigneur, me voici, envoie-moi. Cela fait appel à notre foi. C'est déroutant parfois, parce qu'il lui arrive souvent d'agir sans méthode. Mais il lui arrive aussi d'agir avec méthode, bien pour nous faire comprendre qu'il est Dieu. Et nous aurons toujours du mal à le définir et à l'enfermer dans nos théories et nos perspectives. Ce n'est pas interdit. Seulement, il y a une prééminence du Saint-Esprit qui construit l'Église, qui édifie l'Église. Nous l'avons lu. Après cela, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils, vos filles deviendront prophètes. Ils annonceront la parole, ils vivront de cette parole. Alors je vois certains jeunes qui se disent, ah, peut-être qu'on parle pour le 22e siècle. C'est encore loin à venir. Mais le Seigneur est tellement déroutant, ça arrivera bien plus vite que nous le croyons. Il y a des jeunes qui sont déjà prêts. Il y a des jeunes qui ont déjà répondu. Alors que nous croyons qu'ils sont bien loin derrière, détrompons-nous. Il semble que pour achever la mission qui est la nôtre, que Dieu ait choisi à la fois la jeunesse, sa jeunesse, son Église, tous ceux qui le désirons. Le texte de Joël nous interpelle, surtout lorsque l'on met en parallèle avec le texte du livre des Actes. Sur toute chair. Même, j'ai envie de dire que l'on peut même extrapoler, même ceux qui ne sont pas nommés dans ce texte de Joël sont compris. Sur toute chair. Même sur ceux qui ne sont pas prévus. Les servantes, les serviteurs. J'ai presque envie de dire les invisibles. Ceux que nous n'avons pas encore vus, mais que Dieu a déjà prévus dans sa préscience. Vont constituer cette multitude, cette foule, pour donner à la fois la direction, pour achever cette mission. Quelle est cette mission ? Simplement, dire que le Christ est vivant et qu'il se manifeste encore aujourd'hui. Rendre témoignage de ce Sauveur et aimer notre prochain. Programme simple qui est déjà en train de se mettre en place. Parallèlement à la crise, parallèlement à la détérioration de cette terre, nous voyons ça et là dans le monde, des groupes se lever pour dire stop. Et même s'ils ne portent pas le nom d'adventistes du septième jour, et même s'il arrive qu'on les appelle les anonymes ou qu'ils se dénomment comme cela, ils ne font que protéger le bien de Dieu, la terre. Ils ne font que protéger le bien le plus précieux de cette création, l'homme et la femme, créés à l'image de Dieu. Image qui s'est détériorée, c'est vrai. Mais image capable d'être restaurée au travers de la personne du Christ. Ce Christ que nous voulons élever, ce Christ que nous voulons honorer, ce Christ que nous voulons annoncer. Une église trop belle pour être vraie? C'est à nous de décider. Amen.